La chanson magnifique de Mike Clay.
Oui, heureusement qu'il y a la musique hein, pour mettre un peu de lumière et de pep dans cette journée et dans ce mois de novembre que plusieurs trouvent extrêmement triste. Même, je pense que Monique, il y avait le chroniqueur télévision Hugo Dumas qui, lui, aimerait sauter carrément novembre, l'éliminer du calendrier.
Oui.
Êtes-vous d'accord avec ça?
Une bonne idée, mais je trouve que la musique que Mathieu ou vous, Hélène, avez choisie nous aide certainement à traverser ce mois.
Et moi, je ne sais pas, je pense que je suis dans le club de Louis-José Houd qui, lui, préfère novembre. C'était d'ailleurs le titre d'un de ses spectacles. Oui. Je ne préfère pas nécessairement novembre, mais j'aime ce mois. Ce mois qui nous permet de nous recueillir, on est chez soi, on allume des chandelles et c'est le calme avant la grosse tempête de Noël. Et ce qui m'agresse le plus, moi, dans le mois de novembre, ce sont les publicités qui nous mettent de la pression là, pour acheter les cadeaux de Noël. Là.
Ah oui,
Ça me déprime.
Oui, c'est ça. Oui, bon. Eh bien, il est bel et bien installé ce mois de novembre, Hélène. On le sent très bien dans notre corps, en tout cas, parce qu'il faut se vêtir, comme vous disiez, peut-être d'une bougrine. Mais, et en effet, comme vous le dites, pour certains, cette période de l'année, c'est associé au goût de relaxer, bien calé au fond de son sofa, de faire une belle lecture. Mais la baisse de luminosité a un impact pour plusieurs personnes. Quand la luminosité diminue, le corps sécrète de la mélatonine. Qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du sommeil sur une plus longue période. Et c'est ce que nous explique le psychiatre André Do de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Ça amène alors un état de somnolence, d'apathie. Le corps aussi sécrète moins de sérotonine, ce neurotransmetteur important dans la régulation de l'humeur. Vous rappelez, Hélène, qu'on le surnomme couramment l'hormone du bonheur. En général, les gens font aussi moins d'activités physiques pendant la saison froide. Ben, je dirais surtout entre l'été et l'hiver, là, ou plus précisément peut-être en novembre. Et ce qui peut également jouer sur le niveau d'énergie. Ils dorment en moyenne 15 à 20 minutes de plus. Également, Alexandre Nadeau, ergothérapeute, souligne que nous avons tous une marge de manœuvre entre nos capacités, c'est-à-dire ce qu'on est capable de fournir tant sur les plans physiques, cognitifs, émotionnels, et nos exigences, soit au travail et à la maison. L'épuisement professionnel survient quand les exigences dépassent les capacités. Donc, notre marge de manœuvre, en général, est plus petite à ce temps-ci de l'année. Il faut donc être très vigilant. S'il y a des raisons de se sentir un peu plus fatigué pendant la saison froide, la fatigue peut évidemment nous toucher à longueur d'année. C'est l'un des motifs de consultation les plus fréquents en médecine générale. Elle est invoquée dans 5 à 10 % des consultations selon les études. Ben, je peux en témoigner, Hélène, c'est me sentant moins énergique, plus fatiguée, que j'ai consulté et que j'ai appris que j'avais ce diagnostic de la maladie de Waldenstrom.
Oui, cette maladie méconnue, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus?
Ben, en fait, c'est un cancer rare du sang qui touche 5 personnes sur 1 million.
Imaginez.
Eh bien oui, j'ai gagné le gros lot, mais ce n'est pas fatal parce que les lymphomes qui sont affectés sont indolents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas agressifs.
Bon, une nouvelle rassurante dans cette mauvaise nouvelle, finalement.
Exactement. Ouais. Alors, revenons à la fatigue. Dans la plupart des cas, la fatigue est dite primaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas causée par une maladie sous-jacente. Elle se gère alors principalement par des changements dans les habitudes de vie. Alors, par rapport relativement à ces habitudes de vie, on nous dit qu'il faut être attentif au cercle vicieux. On s'explique. La fatigue s'inscrit souvent dans un cercle vicieux. C'est ce que constate Jean-Philippe Chaput, kinésiologue, chercheur et professeur à l'Université d'Ottawa. On se sent fatigué. Alors, on fait moins d'activités. On reste assis de longues heures à travailler, sans prendre de pause, souvent. Le soir, on prend un verre d'alcool, on regarde nos écrans jusqu'à tard, on dort plus ou moins bien, et ainsi de suite. Et tout est interrelié. Ça devient alors facile de manquer d'énergie, de motivation, même d'être déprimé. La base de la santé physique et mentale, on se le rappelle, bien manger, bien dormir, bouger et gérer son stress. Le réflexe naturel, quand on se sent fatigué, ben, c'est de vouloir se reposer. Mais on sait qu'être inactif peut contribuer à augmenter la fatigue. Ainsi, plusieurs études ont démontré que l'activité physique permet d'augmenter les niveaux d'énergie perçus tant chez la population générale que chez ceux atteints de problèmes chroniques. L'exercice est aussi associé à un meilleur sommeil. On a également tendance à sous-estimer les bienfaits associés au simple fait de prendre des pauses pendant la journée. Le mieux, aller 15 minutes à l'extérieur pour bouger un peu, prendre de l'air, 3 points de suspension et du soleil. Bon, j'ajouterai quand il peut ou il veut vraiment rayonner. Parlons maintenant de la luminothérapie et des écrans. La luminothérapie, c'est un traitement particulièrement intéressant chez les personnes souffrant de dépression saisonnière, selon le psychiatre André Dau, qui s'y intéresse dans ses recherches. La luminothérapie rééquilibre le rythme circadien et réduit la sécrétion de mélatonine, ce qui amène au stade d'éveil, donc plus d'énergie. Ça vient aussi augmenter la sécrétion de sérotonine.
L'hormone du bonheur?
Ben oui, alors on est de meilleure humeur. Des études montrent que la luminothérapie peut aussi être un traitement efficace contre la dépression non saisonnière, surtout lorsqu'elle est combinée avec une médication. Le soleil se couche tôt, de novembre à janvier, et l'envie de relaxer devant la télé est parfois irrésistible, ou à lire un bon livre, hein, ce qui est tout à fait correct. C'est normal que le type d'activité fluctue d'une saison à l'autre. Cependant, tout est une question d'équilibre. Ah, ce mot, l'équilibre, l'harmonie.
On y revient toujours.
On y revient toujours. La consommation récréative d'écran devient surtout problématique lorsqu'elle empiète sur d'autres comportements salutaires. Mieux vaut également fermer les écrans, retenons ceci, de 30 minutes à 1 heure avant d'aller au lit. La lumière bleue interfère avec l'endormissement. Savoir organiser, c'est une autre clé pour économiser son énergie. Il ne s'agit pas du tout de tout minuter, là, planifier, mais de mettre quelques blocs à l'horaire pour économiser du temps. On nous donne comme exemple l'épicerie sur le chemin du retour du travail, le ménage de la salle de bain le mardi soir. Si on garde toutes les tâches pour le dimanche matin, ben, ça peut devenir très lourd et très déprimant aussi, ouais. J'ajouterais.
On va avoir le goût de retourner au lit.
Oui, c'est ça. Dernier point, mais non le moindre, l'alimentation, Hélène. D'abord, la répartition des repas dans la journée. Si les repas ne sont pas rassasiants, c'est normal d'avoir des petites baisses d'énergie et des fringales tout au long de la journée. Donc, le déjeuner est souvent le repas le plus déséquilibré, souvent ignoré, ou alors réduit à une forte dose de sucre. Parce que si on mange du pain blanc avec de la confiture et un verre de jus d'orange, ben, finalement, on ingurgite seulement du sucre. Si consommer sans fibres, sans protéines et sans gras, ben les sucres passent très rapidement dans le sang. Le corps sécrète alors beaucoup d'insuline, ce qui nous mène à une chute excessive du taux de sucre et à des coups de fatigue. D'autres conseils en rafale pour terminer, limiter le café et les boissons énergisantes, les repas très copieux et l'alcool. Bien s'hydrater et manger une variété d'aliments frais pour maintenir un microbiote intestinal diversifié. Il faut aussi veiller à consommer suffisamment de fer, présent dans la viande, les poissons et les œufs, mais aussi dans plusieurs aliments végétaux. Alors, espérant, Hélène, que ces conseils nous donneront la possibilité de garder le moral.
C'est sûr. Catherine Enfield qui signe ce texte des pistes pour faire face au marasme de novembre. Bon choix, Monique. Je me demandais, les capsules de sérotonine, est-ce que ça existe?
Ah, je pense pas.
Non.
J'ai jamais entendu parler okay, de ça, Hélène.
Parce que je sais qu'il y a des capsules de mélatonine.
Ah oui, ça existe,
ouais,
pour mieux dormir.
Ouais. Mais moi, j'en veux qu'ils me donnent
ah,
le bonheur.
Ah oui, la joie. Je suis en train de lire d'ailleurs Architecture de la joie.
Oh, quel beau titre! Est-ce que c'est intéressant?
Oui. Oui, c'est une correspondance entre Anaïs Barbeau-Lavallée et Steve Gagnon.
C'est vrai, je me souvenais plus de ce titre-là. Et je l'associe maintenant là, à ces deux auteurs qui sont aussi des gens associés au théâtre, au cinéma et à la littérature. Merci, Monique. Oui. On se retrouve à 10h et des poussières. Mais à 10h, on a une chanson pour vous. Et puis, ce sera la chronique d'Yvan Deslauriers. Restez là.